Donc, notre besoin de rite, un terrain de dialogue. Quand nous avons préparé cette université avec le comité de pilotage, on s'est dit quand même que cette question des rites aujourd'hui, elle montait en fait. On a senti que quelque chose montait sur cette question des rites. C'est les rites, moi, quand j'étais jeune, il y a longtemps, il y a 40 ans, j'avais 18 ans, voilà, vous savez quel âge j'ai, eh bien, les rites, c'était quelque chose de vraiment qu'on n'aimait pas trop, qu'on mettait de côté. On pensait que vraiment la question de la foi, elle passait pas par le rituel. On a vraiment un peu jeté les rites par la fenêtre. C'était pas un sujet. Et puis on s'est aperçu quand même, aussi bien au sein de l'Église catholique, qu'il y a quand même une demande de rituel davantage chez certains jeunes, ceux qui sont dedans, pas tous, mais quand même pas mal. Et puis autour de nous, on sent que le rituel n'est plus du tout un repoussoir. Le rite, le mot de rite n'est plus du tout le repoussoir qu'il avait été pour, en tout cas pour ma génération. Et que ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans n'ont plus du tout cette méfiance vis-à-vis de ce mot-là. Et on voit autour, moi je vois autour de moi, et je sais qu'il y a des livres qui se vendent, des applis qui font des millions d'abonnés. Certains commencent la journée, certains jeunes et moins jeunes aussi, de façon très ritualisée. Ils emploient ce mot par un temps de méditation ou de yoga, d'écriture personnelle, de l'exercice physique. Ils appellent cela les routines du matin ou les rituels du matin. Voilà, ça c'est une chose. Et puis, comme je racontais ce qu'on préparait ici, quelqu'un m'a rapporté l'histoire toute récente d'un jeune couple qui s'est marié civilement. Ce n'est pas des chrétiens, ils ne s'inscrivent pas dans cette tradition. Mais ils ont fait appel à un ami jésuite pour célébrer, pour qu'il exerce son savoir-faire lors d'une cérémonie laïque. C'est intéressant. Un jeune homme de mon entourage me racontait cet été que lors de vacances avec des copains, 20 copains, ils avaient loué une maison, ils avaient entre 25 et 30 ans, chaque repas du soir était précédé de ce qu'ils appelaient un bénédicité. C'est le mot qu'ils employaient alors qu'aucun d'eux, je les connais bien, ne s'inscrit clairement dans la tradition chrétienne, mais ils employaient ce mot de bénédicité en dehors de toute référence religieuse. Et c'est un moment où l'un d'eux prenait la parole, il se tenait par la main, et ils disaient merci, ils exprimaient leur gratitude pour le moment de fraternité qu'ils vivaient ensemble. Et il y en a un qui prenait la parole tous les soirs, donc différent. Donc je me dis, si ça, ce n'est pas un rituel, je me demande bien ce que c'est. Donc, et on s'est dit aux copiles que les rituels sont peut-être aujourd'hui un terrain de dialogue avec d'autres générations que la nôtre, nos enfants, petits-enfants. Et donc, c'est la question que nous voulons poser à Gabriel Ringlet, qui est prêtre, écrivain, théologien. Et pourquoi est-ce que nous lui avons demandé de faire tous ces kilomètres, parce qu'il est parti de Hautigny, près de Louvain-la-Neuve, ou de Malesherbes-Sainte-Marie, où il habite. Hier, il a roulé toute la journée pour venir nous parler aujourd'hui de son expérience et de cette fameuse école des rites et de la célébration qu'il a créée en 2020 pour répondre à ce besoin de marquer la vie par des rites et des moments de célébration. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a invité. Alors Gabriel, je te passe la parole, et puis à toi pendant une heure.
Merci beaucoup, Dominique. Non seulement pour l'introduction, mais pour tout ce travail, pour toute cette mobilisation. J'imagine tout le travail qu'il y a là derrière, même si c'est toute une équipe, je trouve ça admirable. Et merci à vous de m'accueillir avec un sujet qui me tient très, très à cœur et dont j'espère vraiment qu'il va vous rejoindre. Pour ouvrir notre rencontre, et sans doute un peu plus tard notre débat, je voudrais d'abord vous parler de Noé. Vous savez, la vie, quelquefois, nous donne des rendez-vous assez inattendus. Et elle peut même nous conduire là où nous n'avions pas du tout prévu d'aller. Et pour moi, d'être appelé un jour tout au fond d'une maternité pour vivre avec une patiente et avec l'équipe médicale qui l'entourait un moment particulièrement difficile. Si je vous en parle ici cet après-midi, le plus sobrement, le plus délicatement possible, c'est avec, bien entendu, l'accord de la personne concernée et pour des raisons de célébration. Je revois encore, comme si c'était hier, le moment où le petit corps est sorti. Une jeune sage femme l'a reçu des mains et la médecin qui venait de procéder à l'accouchement l'a déposé sur un linge, à peine 10 centimètres. Je revois sa tête, je revois ses mains, ses pieds déjà si finement dessinés, ses oreilles, l'ombre de ses yeux. Ce n'était pas un bébé, mais c'était un bébé. Après l'avoir présenté pendant quelques secondes, la sage-femme, si délicate, l'a emporté pour aller le préparer, nous a-t-elle dit. Elle est revenue une demi-heure plus tard, l'a déposé sur le ventre de la maman et s'est retirée. C'était déjà tout un rituel. Ce devait être un garçon. Nous l'avons nommé du nom qui lui était destiné, Noé, le repos en hébreu. Mais une autre traduction dit la consolation. La maman souhaitait l'emporter pour qu'on puisse célébrer quelque chose autour du fœtus. Elle avait choisi un très joli coffret en bois et c'est dans ce coffret que la jeune femme a déposé Noé. On avait la chance que ça se passe, si j'ose dire, dans les cliniques Saint-Luc à Bruxelles, dont j'avais été le vice-recteur, donc je connaissais très bien les équipes, et alors qu'aujourd'hui la loi ne permet pas d'emporter ce petit fœtus, les équipes ont fermé les yeux et nous ont laissé partir avec le coffret. J'ai la joie d'avoir un oratoire chez moi. C'est juste à côté de mon prieuré, c'est là où j'habite. J'y tiens énormément, c'est une vieille étable que j'ai transformée en oratoire, mais en gardant encore bien des aspects de cette étable, et notamment la mangeoire. Et c'est là, dans cette mangeoire, que nous avons déposé Noé. Une fleur et une bougie allaient veiller sur lui pendant plusieurs heures. À l'entrée du soir, nous avons emporté le petit coffret au prieuré, il y a juste la rue à traverser. La famille était là. Le grand-père a creusé un trou au milieu des fleurs. Quelques paroles se sont échangées dans le silence, une prière. La maman a dit merci à chacun et à Noé. Il restait à jeter un peu de terre sur le coffret. Puis un chant s'est élevé sur la pointe des pieds. La grâce d'un jour unique. Il y a quelques mois, j'ai raconté, comme je viens de vous la raconter maintenant, cette histoire à Bordeaux. À la fin de la conférence, un monsieur s'est levé. « Je suis prêtre, m'a-t-il dit, et médecin. » Et à ce double titre, aumônier d'un des grands hôpitaux de la ville. Or, l'autre jour, dans mon service, une femme qui venait d'avorter m'a demandé un rite. Un rite, me dit-il, autour de sa souffrance. Pas seulement une conversation, pas seulement une prière, mais un rite. J'étais très démuni, dit-il. J'ai tenté quelque chose, mais je balbutiais. Alors, je vous demande vraiment de nous aider à célébrer dans les circonstances les plus difficiles, comme celle que je suis en train de vous partager. Dans le même esprit, mais plus étonnant encore, lors d'un exposé que je donnais à des médecins, une dame m'interpelle et me dit « Je suis athée, je suis gynécologue, je pratique l'avortement chaque semaine, j'essaye d'être un bon médecin, j'essaye d'être la plus attentive possible à mes patientes, mais il manque quelque chose. Je ne supporte plus de laisser partir le fœtus comme ça. Je voudrais très sobrement que vous m'aidiez à construire un rite pour accompagner ce départ. Car vous comprenez bien que dans l'hôpital laïque où je travaille, on ne vous permettra pas de venir faire ce rite vous-même. » Cette histoire de Noé que je viens de vous confier et ses prolongements me permet de vous dire qu'un rite, qu'un rituel, c'est-à-dire une construction de rite, c'est plus qu'une écoute attentive de la souffrance, c'est plus qu'une conversation empathique, c'est plus que le partage d'un poème ou le partage d'une prière, c'est mettre en place toute une démarche, tout un dispositif très simple qui va permettre de ressaisir la situation pour tenter de l'exprimer autrement. Et ce qui est vrai en début de vie, l'est évidemment à la fin, y compris lorsque la fin de vie se termine par une euthanasie. Ce à quoi je suis confronté très, très, très souvent. Petite parenthèse, mais elle est vraiment importante, hein. Il ne faut jamais confondre, à mes yeux, célébration et position éthique. On a bien sûr le droit d'être opposé à l'avortement. C'est un grand débat. On a bien sûr le droit d'être opposé à l'euthanasie. C'est aussi un grand débat. Mais on n'a pas le droit de dire que sous prétexte éthique, une souffrance ne peut pas être accompagnée rituellement. Au contraire, plus la situation est difficile, plus la position éthique est complexe, plus la souffrance est criante, et plus la célébration mérite d'être au rendez-vous. Avant de poursuivre, il me paraît important de clarifier deux termes que nous rencontrons nécessairement tout le temps lorsque nous parlons de célébration, spirituel et rituel. Et deux termes qui ne vont pas nécessairement de soi. Spirituel. Vous connaissez bien entendu la comédienne Juliette Binoche. Oui. L'insoutenable légèreté de l'être. Les amants du Pont Neuf. Bleu. Le patient anglais. Caché. Etc. 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 Juliette Binoche explique que pour elle, et j'ai eu la chance d'en débattre chez mon éditeur, chez Albin Michel, avec elle à Paris, elle explique que pour elle, je la cite, « Jouer est un acte mystique. Jouer est un acte mystique. Et qu'elle a besoin de vie spirituelle comme de pain. Mais attention, dit-elle, pas une vie spirituelle parenthèse, pas une vie spirituelle déconnectée, non. C'est au cœur du métier que se joue la vie spirituelle. Je la cite encore. Quand l'acteur parvient au summum de son être et de son art, c'est alors qu'il touche au spirituel. Le spirituel, c'est une qualité de présence. Et d'abord une qualité de présence à soi. C'est une manière de vivre avec intensité. Nous le savons toutes et tous, hein, à travers la pesanteur et la grâce d'une existence, nous privilégions des valeurs. Nous choisissons, nous cherchons une cohérence. Quel est le fil rouge? Qu'est-ce qui décide de la couleur d'une vie, de sa tonalité, de sa liberté? N'est-ce pas de spiritualité dont il faut parler? Et donc d'esprit? À condition... C'est fondamental d'entendre le mot dans toutes ses harmoniques, d'en faire chanter l'étymologie, que vous prononciez ce mot en latin, spiritus, en grec pneuma ou en hébreu ruach, c'est toujours l'idée de vent, dans toutes les langues, l'idée de vent, l'idée de respiration qui est au rendez-vous. La vie de l'homme, qu'il soit croyant ou non, est une vie respirée. Et il lui appartient d'entretenir cette respiration. Qu'est-ce qui donne souffle à nos existences? Qu'est-ce qui donne souffle lorsque nous nous trouvons devant une impasse? Qu'est-ce qui donne souffle lorsque nous sommes à bout de souffle? La vie spirituelle, c'est une vie habitée par le souffle jusqu'au cœur des interrogations les plus fondamentales. La vie spirituelle, c'est un labour, c'est un retournement, c'est un combat, c'est une lutte, c'est un corps à corps avec soi-même, et pour ceux qui croient en Dieu, c'est un corps à corps avec Dieu. Vous comprenez donc bien qu'en matière de spiritualité, il ne s'agit pas de jouer le sacré contre le profane, mais d'habiter le profane avec une telle intensité qu'il en devienne sacré. C'est bien cela que j'ai entendu chez Juliette Binoche quand elle confie que son travail d'actrice touche au spirituel. Autrement dit, le spirituel dans nos vies, dans nos métiers, dans nos appartenances, dans nos familles, comme dans le jeu de Juliette Binoche, le spirituel, il n'est pas à côté. Il n'est pas pour le dimanche, il n'est pas à l'entracte, il n'est pas après journée, il n'est pas quand on a le temps, il n'est pas quand on part en retraite, il n'est pas quand on prend un petit café. Le spirituel, il est au cœur du tournage, il est dans la séquence elle-même qu'il faut recommencer 10 fois pendant que la caméra tourne. Ce spirituel, il est heureux qu'il s'exprime dans le rituel. Poser des rites, célébrer ce qui nous arrive, non seulement c'est fondamental, mais c'est un enjeu qui concerne la société tout entière. Célébrer, ce n'est pas du tout réservé à la religion. Célébrer, ça concerne les non-croyants autant que les croyants. Célébrer, c'est donner à l'humanité plus d'humanité. Célébrer, c'est soulever la vie ordinaire pour la porter plus loin, pour la porter plus haut, pour lui donner une dimension plus large. Célébrer, c'est empoigner ce qui nous arrive pour le regarder autrement, mais sans se déconnecter du quotidien. Célébrer peut être joyeux, évidemment, et heureusement, célébrer une naissance, une alliance, mais célébrer peut être douloureux, célébrer une déchirure, une blessure, célébrer une mort. Dans mon université, il y a des étudiants de 145 nationalités différentes, ce qui permet d'avoir une certaine vision de l'humanité. Et donc, une de mes étudiantes, de Suisse alémanique, ce n'est pas très loin d'ici, me disait que dans son petit village, on pratique, lors du décès, systématiquement la crémation et qu'on disperse les cendres sur le lac qui borde le village. Autrement dit, après la célébration au temple, on affrète une barque et on va jeter ces cendres au milieu du lac. Mais ce qu'elle me disait surtout, c'est qu'à la date anniversaire du décès, c'est-à-dire 1 an après, on affrète une nouvelle barque, on prend des pétales de fleurs et on va les jeter là où les cendres ont été dispersées l'année auparavant. Il est évident que les cendres ne sont plus là. Et pourtant, nous pratiquons ce rite de dispersion des fleurs à l'endroit de la dispersion des cendres. Que ce soit dans la joie ou dans la peine, célébrer refuse de laisser les choses en l'état. Pour le dire de manière très simple, avec cette magnifique formule de Rainer Maria Rilke, célébrer, c'est avec de l'ici faire de l'au-delà. À propos de la souffrance, parce que c'est surtout mon terrain, je travaille beaucoup, beaucoup en soins palliatifs. J'ai été pendant 10 ans, avant d'être prof à Louvain, aumônier d'hôpital, dans un hôpital laïque, ce qui était quand même passionnant et original. Aujourd'hui, je suis confronté à toutes les questions éthiques en fin de vie. Lorsque j'étais vice-recteur dans mon université, dans les cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, nous étions du matin au soir confrontés aux plus grandes questions éthiques qui soient. Donc, à propos de la souffrance, de la maladie, de la mort, je voudrais vraiment vous convaincre que le rite est un soin, un vrai soin, et qu'à côté du soin médical, indispensable, du soin psychologique, du soin relationnel et du soin spirituel, il faut convoquer le soin rituel. Le soin rituel n'est pas magique. La souffrance, parce qu'on pose un rite, ne va pas disparaître comme par enchantement, mais il apporte de la légèreté dans la gravité. Une bougie, une photo, un parfum, une musique, une chanson, un poème, un objet familier, quelques mots, un merci, des pétales de fleurs, tout cela, qui doit être agencé, bien sûr, sobrement, tout cela concourt à raconter une histoire. Tout cela fait éminemment partie du soin. C'est même un soin très fin, un soin très délicat. Et vous le devinez, hein, ce que je vous raconte là peut se décliner aussi bien dans une perspective croyante que dans un contexte tout à fait laïque philosophiquement. Une fleur que je sache n'est pas chrétienne ou laïque. Ni une flamme, ni un parfum. C'est secondaire la manière de les inscrire dans une perspective spirituelle particulière. Mais ce qui est primaire, ce qui est fondamental, c'est la dimension anthropologique de ce soin. Et j'ajouterai sa dimension de spiritualité et de solidarité. Je trouve particulièrement heureux, et c'est ce que je tente de vivre dans les lieux de soins où j'interviens, que les différents acteurs soient réunis, je dis bien, aussi bien dans le monde laïque que dans le monde chrétien, car je célèbre avec des médecins dans des hôpitaux laïques. C'est sans doute propre au surréalisme à la belge, mais c'est un fait. Eh bien, là où je me trouve, il est heureux que les différents acteurs réunis autour de ces dimensions rituelles, se sentent tous concernés. Car tous traversent à ce moment-là, lorsque nous sommes en fin de vie, lorsque nous sommes en soins palliatifs, lorsque nous sommes face à une euthanasie, tout le monde traverse. Le patient traverse, le médecin traverse, les infirmières traversent. Moi aussi, je traverse. Le soin rituel, par sa force symbolique, réussit à réunir toutes ces traversées. Alors, à propos de ces rites, à propos de ces célébrations, je trouve, nous aurons largement l'occasion d'en discuter, vous me direz quel est votre regard sur cela, je trouve que nous vivons pour le moment un curieux paradoxe. D'un côté, c'est une donnée de fait, hein, elle est sociologique simplement, les églises sont largement désertées. Je ne connais pas les statistiques en France, en Belgique, la pratique dominicale est de moins de 3% et les moins de 30 ans représentent 0,02 de ces 3%. C'est une donnée de fait. Alors que les églises étaient bien le lieu par excellence de la pertinence rituelle. mais plus personne ne va chercher sa source rituelle là-bas. C'est quand même une question à regarder en face. Moi, je ne peux pas me dire que de 97% qui ne viennent plus là ne m'intéressent pas. Donc, d'un côté, les lieux traditionnels ne sont plus fréquentés. D'un autre côté, et ça aussi, c'est très spectaculaire, et on l'a dit à plusieurs reprises déjà durant cette session, la demande rituelle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Tellement forte que le commercial qui n'en rate pas une a flairé l'affaire et offre des rites clés sur porte à des prix qui ne sont pas donnés. Vous pouvez demander à une petite firme commerciale de vous construire votre mariage et par ici les 5 ou 6 000 euros, au bas mot. Mais ce n'est pas que pour les mariages, ce qui est peut-être le plus fréquent, mais on voit, et je l'ai vécu moi-même parfois de manière très surprenante, on voit des baptêmes confiés à des firmes commerciales et où un jeune couple investit énormément d'argent pour un baptême qui va durer une demi-heure et où la firme peut tout vous fournir. Ils vont bientôt avoir un catalogue de célébrants. Et c'est en train de se développer aussi pour le dernier adieu. Vous avez vraiment des firmes commerciales qui vous préparent la célébration du dernier adieu. Moi, je suis certain d'une chose. Je viens de vous le dire, la soif spirituelle reste grande, la soif rituelle reste grande, mais les responsables de nos églises, et de la mienne en particulier, je le dis avec beaucoup de délicatesse, n'ont absolument pas mesuré le changement anthropologique majeur qu'ils avaient sous les yeux. Même, et moi je suis en dialogue permanent avec les évêques, même des évêques de très bonne volonté et que l'on peut considérer comme ouverts, ont une ouverture qui est à l'intérieur d'un cercle fermé. Ce n'est pas une ouverture qui demande un changement anthropologique majeur. C'est là que se trouve la question. Et c'est face à cette situation que nous avons, avec mon équipe, décidé d'ouvrir de nouveaux chemins et de considérer que la célébration, elle n'était absolument pas réservée aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, aux rabbins et aux conseillers laïcs, mais que beaucoup d'entre nous, hommes et femmes de toute conviction, pouvaient être appelés à célébrer. Je suis peut-être sur un terrain particulier, mais je suis quand même très, très frappé du nombre de gens que je croise dans la vie de tous les jours et qui me disent « peut-être que j'ai vocation à célébrer ». On parle d'une crise des vocations, mais elle n'a aucune importance, cette crise des vocations, puisque les vocations, y compris les vocations à célébrer, n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui. Dans notre école des rites, dont je vais vous parler dans quelques instants, nous avons demandé à tous ceux qui s'inscrivaient une lettre vraiment détaillée de motivation. Et une personne sur quatre, dans les réponses reçues, nous disent « Je crois que j'ai vocation à célébrer ». Et ceux qui s'inscrivent, c'est très, très, très varié. Ça vient tous azimuts, tous horizons. Des pasteurs, des diacres, des prêtres qui célèbrent depuis 30 ans ou des gens qui n'ont jamais fait cela ou qui vont le faire pour la première fois. Et ça va de demandes très classiques à de demandes plus inattendues. Quelques exemples. Dans le domaine tout à fait classique, les visiteurs de malades. Je me trouve, moi, devant des équipes de visiteurs de malades qui me disent « C'est très bien notre vocation d'aller rendre visite à une personne malade, d'aller peut-être lui partager la communion, d'avoir une conversation, d'avoir un échange spirituel, mais nous aimerions tellement pouvoir, lors de notre visite, nous engager dans une véritable démarche rituelle. Autre exemple, mais celui-là, il est quasi quotidien, j'en ai au moins un par semaine. C'est un grand-père qui s'amène, qui vient me voir pour célébrer la naissance de sa petite fille. Alors, ses enfants lui ont dit, nous voudrions une célébration à l'occasion de la naissance de notre enfant, mais pas question d'aller à l'église. Alors le grand-père se trouve devant moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais quand même pas lui répondre, désolé monsieur, moi ma crèmerie c'est le baptême catholique. Libre à vous de faire tout ce que vous entendez, mais pour ça il faut aller voir ailleurs. Je ne peux pas supporter cette réponse ou que des confrères donnent cette réponse. C'est insupportable. Il y a là une demande rituelle sincère. Qu'importe qu'elle ne s'inscrive pas dans le cadre de la demande classique de baptême, il faut y répondre. Et donc, j'ai la responsabilité de préparer ses grands-parents à célébrer le baptême de leur petit-fils ou de leur petite-fille. Et je ne suis pas du tout seul à dire qu'il faut aller sur ce chemin-là. Je vous en donnerai d'autres exemples qui montrent que c'est beaucoup plus large que cela. Troisième exemple, à propos de la vie de couple. Je reçois un jeune couple, 23, 24 ans, qui viennent me trouver pour la célébration de leur mariage. Très bien. On en discute, ils me disent un peu à quoi ils ont pensé, ce qui est déjà magnifique. Et ils me disent, mais nous faisons le tour. Je dis, comment ça vous faites le tour? Ben oui, après vous, on a rendez-vous avec le rabbin, on a rendez-vous avec un imam, nous allons voir une pasteur et nous allons voir le centre d'action laïque. Mais je dis, bonne chance et grand bien vous fasse. Mais à l'intérieur, je me dis, mais chapeau, hein. Est-ce que vous en connaissez beaucoup de couples qui, au moment de préparer leur mariage, se disent, comparons, qu'est-ce que chacun a à m'offrir dans le terrain qui est le sien? Après quelques semaines, ils arrivent chez moi et ils me disent, c'est vous. Vous imaginez. Mais ils me disent, attention, hein. Pas dans une église. Je dis ça, ce n'est vraiment pas un problème. Une fois sur deux, je célèbre le mariage en dehors d'une église. Oui, mais non seulement ce ne sera pas dans une église, nous avons réservé une salle chez le traiteur, là où on va faire la fête, mais vous, vous restez dans l'assemblée. C'est nous qui allons célébrer, vous, vous serez dans la foule. On prépare en coulisses avec vous, et vous êtes invités, bien sûr, ce jour-là, mais dans l'assemblée. Je dis, mes petits amis, je suis prêt à beaucoup de choses, mais je vous signale que cela n'existe pas une célébration sans un célébrant, c'est-à-dire sans une présidence. Et ce ne sont pas les gens concernés par le rituel lui-même qui vont s'auto-présider. Donc, si je ne célèbre pas, nous allons dire qui célèbre. Nous avons choisi les deux papas, qui étaient tous les deux catholiques pratiquants. Nous avons, avec les deux pères, préparé une magnifique célébration. Nous étions bien chez le traiteur. Il y avait une table, il y avait un cierge, il y avait un échange des consentements, il y avait un échange des alliances. On a lu un évangile, la totale, quoi. J'étais bien dans la foule. Les deux pères ont fait ça admirablement. Ça m'a donné beaucoup plus de travail que si je l'avais fait moi-même. Et ce qui ne m'était jamais arrivé, pendant la réception qui a suivi, on ne parlait que de la célébration. C'était le seul sujet de conversation. Là, Je dois vous dire que, franchement, c'était une magnifique expérience. Quand je vous dis que nous devons oser élargir et que je ne suis pas seul, dans un magnifique numéro de sa lettre aux communautés de mars 2018, donc il y a quelques années déjà, la Mission de France a consacré un numéro à la célébration. C'est un petit numéro que je trouve admirablement fait et qui montre comment aujourd'hui des rites s'effacent et disparaissent alors que d'autres s'inventent et viennent prendre corps parfois avec bonheur. Et notamment dans ce numéro, Malou Lebar, une enseignante qui est engagée dans le renouveau des expressions liturgiques, invite, je la cite, à élargir l'espace sacramentel. J'ai trouvé l'expression très belle. Élargir l'espace sacramentel. Dans le même numéro, le théologien que vous connaissez, Christophe Théobald, plaide, je le cite aussi, pour une ritualité ouverte, qui n'exige pas, dit-il, la foi en Jésus-Christ, mais qui s'adresse simplement au désir de vie et de sens de beaucoup de nos contemporains. Et Christophe Théobald conclut son article en disant « Il faut ouvrir l'espace de la grâce ». Si je relis les deux expressions, une ritualité ouverte et ouvrir l'espace de la grâce, je trouve que nous sommes vraiment là au cœur d'un enjeu terriblement contemporain. C'est bien pour ouvrir l'espace de la grâce, c'est bien pour proposer une ritualité ouverte que nous avons lancée dans mon prieuré, une école des rites et de la célébration. Je vous en dis juste quelques mots. À la librairie, j'ai déposé une cinquantaine de dépliants qui vous donnent absolument tous les détails. S'il n'y en a plus, vous m'écrivez. Dominique vous donnera mon adresse mail ou celle de mon prieuré. Alors, pourquoi cette école des rites ? Mais vous l'avez compris. D'un côté, les églises, de l'autre côté, le commercial. Il faut d'urgence ouvrir une troisième voie et n'avoir absolument pas peur et n'être pas bloqué par « oui, mais enfin, c'est réservé aux prêtres quand même, malgré tout. Que vont dire les diocèses? Que vont dire les évêques ?» Mais pas du tout. Je suis allé voir le cardinal primat de Belgique et je lui ai expliqué noir sur blanc ce que nous faisions. Nous avons relevé avec mon équipe une quarantaine de situations d'aujourd'hui, de situations qui nous arrivent tous les jours, où il y a matière à célébrer. Et les sacrements, c'est une toute petite partie du champ de la célébration. Donc quand on est obsédé par l'aspect strictement sacramentel en disant « il n'y a pas place pour les laïcs », c'est déjà se tromper complètement de sujet. Il y a une très vaste place pour les laïcs. Et les sacrements ne sont qu'une petite partie du champ célébrationnel. Alors, dans cette école des rites, pour vous le dire simplement en quelques mots, nous avons d'abord un module « Qu'est-ce que célébrer ?» Je viens de vous parler d'aspects d'animation, du commercial, et je dis cela avec respect, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui font de l'animation plutôt que de la célébration, mais je trouve quand même qu'il faut être très, très, très au clair sur cette question. Célébrer, ce n'est pas animer, même si animer peut être quelque chose qui a plein de sens, mais c'est d'une autre nature. Célébrer, présider une célébration, comme laïque, c'est être habité par une parole qui vient de plus loin que soi, et être porteur de cette parole et la faire surgir chez celles et ceux avec qui et pour lesquels nous célébrons un grand moment de traversée dans leur histoire. Donc ça vaut vraiment la peine de remettre, si j'ose dire, les compteurs à zéro Et aussi bien pour quelqu'un qui célèbre depuis des dizaines d'années ou pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, de s'interroger ensemble, c'est quoi célébrer ? Quelle est cette vocation si particulière ? À partir de là, celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'engager dans des modules qui sont plus spécifiques, notamment célébrer de la naissance jusqu'à la mort. Donc comment célébrer la naissance de manière catholique, de manière protestante, de manière laïque, etc. Puisque nous nous voulons très pluralistes et nous mettons ensemble des personnes qui appartiennent à différentes traditions. Je travaille avec une pasteure protestante de Genève, Marie Sénèque. Je travaille avec une grande maîtresse de la Grande Loge féminine de Belgique, qui a une expérience exceptionnelle de la célébration laïque et franc-maçonne. Je travaille aussi avec une jeune femme qui est allée se former en Israël pendant 5 ans et qui appartient vraiment au courant juif libéral et qui célèbre admirablement dans la perspective juive. Une autre qui est plus proche de la démarche amérindienne. Donc vous voyez, nous sommes une équipe assez pluraliste. Il y a aussi un diacre catholique. Donc, nous travaillons avec différents courants, les différentes étapes de la vie. Un module qui est fondamental pour nous, c'est le module rite et soins. Qu'est-ce que cela veut dire, rite et soins ? Ça veut dire comment célébrer à l'hôpital, comment célébrer en fin de vie, comment célébrer avec des enfants qui sont en grande difficulté, comment célébrer l'entrée en EHPAD, etc., etc., etc. Nous avons par exemple dans ce module une demi-journée avec des médecins et infirmières qui accompagnent des enfants que l'on dit, entre guillemets, condamnés, qui ont un cancer par exemple, et qui n'en ont plus que pour quelques semaines ou pour quelques mois, et qui sont parfois des petits bouts de 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois des adolescents. Nous avons, dans les cliniques Saint-Luc à Bruxelles, toute une équipe qui fait un travail mais absolument admirable de célébration avec ces tout-petits et avec leurs proches, bien entendu. Je ne parle pas de la célébration des funérailles, hein. Je parle bien de la célébration avec ces enfants avant la mort. Comment est-ce qu'on peut célébrer avec eux pour que quelque chose de très encourageant, de très vivant se passe alors qu'ils sont en train de traverser des moments très difficiles. C'est vraiment l'histoire de Oscar et la Dame Rose, hein, de Eric Emmanuel Schmitt. C'est un ami, j'ai beaucoup l'occasion de discuter avec lui, et je lui ai dit, Eric Emmanuel, comment est-il possible que tu aies une telle connaissance de ce à quoi nous sommes confrontés avec les tout-petits à l'hôpital ? Car c'est tout à fait cela, hein, Oscar. Les parents ne veulent pas entendre et croient qu'ils vont encourager leur petit garçon en leur disant, tu sais, quand tu rentreras à la maison, on a repeint ta chambre, le grand poster dont tu rêvais, il est en place. Et Oscar, il sait parfaitement qu'il va mourir. Moi, il m'est arrivé d'accompagner un certain nombre de tout-petits. Ils savent très bien que c'est la fin. Il sait très bien qu'il va mourir. Et il voudrait bien que papa et maman viennent lui dire, mon chéri, nous savons que nous allons devoir nous séparer. C'est très, très dur pour toi. C'est très, très dur pour nous. Nous allons essayer de le vivre ensemble le moins mal possible. Et le petit Oscar, il serait beaucoup plus rassuré d'entendre cela. Mais comme papa et maman n'ont pas été préparés quand ils étaient petits à parler de la mort quand il fait beau et à rencontrer ces questions fondamentales, et je ne leur jette évidemment pas la pierre, ils sont très, très perdus devant la disparition de leur tout-petit. Alors, bien entendu, dans les exemples que je vous cite, je ne voudrais pas oublier la liturgie classique. C'est aussi la célébration. Comment faut-il aujourd'hui célébrer Noël ? comment faut-il aujourd'hui célébrer la Semaine Sainte? Le choix que nous avons fait dans mon prieuré, qui est un choix vraiment fondamental, c'est que toutes les grandes liturgies de l'année liturgique, nous les envisageons et nous les construisons toujours avec des artistes, avec des écrivains, avec ceux que j'appelle les créateurs d'imaginaire, donc des romanciers, des poètes, des cinéastes, des photographes, des sculpteurs, des peintres, des créateurs d'imaginaire, qu'ils soient croyants ou non. Et ils sont associés directement à la construction de la liturgie. Je vous donne un exemple tout simple. Nous allons vivre Noël dans quelques semaines. Nous avons décidé de travailler avec un grand comédien belge qui s'appelle Philippe Vauchel et qui a mis en scène de manière exceptionnelle le texte d'Erri de Luca, Il nome de la madre, donc au nom de la mère, qui est l'histoire de la naissance de Jésus et ce chemin entre Marie, Joseph et Jésus. C'est exceptionnel comme livre, comme texte poétique, mais il faut le voir jouer sur scène. Mais comprenez-moi bien, il ne va pas y avoir, comme on le fait quelquefois dans certaines paroisses, une veillée de Noël et puis la messe du curé. Dès le point de départ, l'acteur, les musiciens, les chanteuses et tous ceux qui interviennent dans cette célébration travaillent ensemble. Et moi, je ne vais pas m'amener à un moment donné pour faire mon job de curé. Et le comédien sera à mes côtés, y compris au moment de la consécration. Donc, c'est complètement intégré. D'autres exemples qui sont peut-être encore plus parlants, vous me le direz, c'est à propos de la Semaine Sainte. Un exemple pour le Jeudi Saint, je vous le raconte parce que sentimentalement, il me touche beaucoup. J'ai reçu, elle est très très vieille aujourd'hui, je suis en train de préparer la préface de ce qui sera peut-être son tout dernier livre, j'ai reçu Magda Hollander-Lafont. Vous avez peut-être lu son magnifique petit livre, « Quatre petits bouts de pain ». Donc c'est une des grandes, j'ose employer le mot, des toutes grandes rescapées d'Auschwitz. Et dans ce livre, Quatre petits bouts de pain, Magda raconte comment elle a été sauvée à Auschwitz par le bon gardien. C'est-à-dire qu'au moment où elle devait courir avec toutes ses compatriotes et avec les SS qui étaient là en train de leur tirer dessus, les godasses, c'était fondamental. Si on n'avait pas de bons souliers et de bons lacets, on était perdu. Je n'entre pas dans les détails, mais ce bon gardien va lui fournir une bonne paire de chaussures et lui remplacer ses lacets. Alors avec Magda, nous avons décidé, au soir du Jeudi Saint, de célébrer le rite du dénouement-renouement. Chacun dans l'assemblée avait reçu un lacet. Il pouvait être neuf ou usagé. Quand on est prisonnier, on vous retire vos lacets pour éviter le suicide, sans doute, mais pour empêcher de courir aussi. Or, à Auschwitz, il fallait courir sous peine de mort. Au lacet, deux phrases sont attachées, l'une du récit de Magda et l'autre du récit du Jeudi Saint. Et nous demandons à tous les participants de nouer ce lacet autour de leur poignet et de se demander, à un moment de méditation silencieuse, comment, après ce Jeudi Saint, lorsque je vais rejoindre la vie de tous les jours, comment vais-je dénouer la situation de quelqu'un qui n'arrive plus à marcher, dénouer et puis renouer, et puis redresser, et puis encourager. C'est cela aussi le Jeudi Saint. J'ai demandé à Magda d'être à mes côtés à l'autel au moment de la consécration et de raconter cette histoire qu'elle m'avait confiée, mais de la raconter dans la prière eucharistique. À un moment donné, dans les camps où elle était, elle avait 17 ans, hein, une mourante lui fait signe. D'où le titre du livre, hein, cette mourante ouvre la main dans laquelle il y avait 4 petits bouts de pain moisi. Et d'une voix à peine audible, elle dit à Magda, « Prends, tu es jeune, tu dois vivre, toi, pour témoigner de ce qui se passe ici. Tu dois le dire pour que ça n'arrive plus jamais dans le monde. » J'ai pris ces 4 petits bouts de pain, dit Magda, et je les ai mangés devant elle. J'ai lu dans son regard à la fois la bonté et l'abandon. J'étais très jeune, je me suis senti dépassé par ce geste et tout ce qui le sous-tendait. À voir, le soir du jeudi saint, Magda à l'autel, à côté de moi, lui faire raconter ce que je viens d'évoquer, se réapproprier ce texte, le transsubstancier, si j'ose prononcer ce mot impossible, et prononcer sur ces 4 petits bouts de pain, comme la mourante, prends, prenez et mangez, et ajoutez, ceci est mon corps livré pour vous. Croyez-moi, à ce moment-là, je ne parle pas uniquement comme célébrant, une assemblée à ce moment-là sait de certitude que la mourante de Birkenau, en partageant son pain moisi, a traversé la mort et a rejoint la vie éternelle. Un ou deux exemples pour ce qui est sans doute la célébration qui est parfois considérée comme la plus difficile, c'est celle du Vendredi Saint. Dans mon doyenné, il y a 15 clochers, comme on dit, donc 15 paroisses, là où j'habite, hein. Et le doyen me dit, comment fais-tu ? Nous n'arrivons pas à réunir 200 personnes le Vendredi Saint pour les 15 paroisses, parce qu'on célèbre le Vendredi Saint dans une seule des 15, et toi, vous êtes 400 le Vendredi Saint. Explique-moi. Mais je lui dis, l'explication est toute simple. C'est que ça doit être le Vendredi Saint d'aujourd'hui. Ça doit être le Vendredi Saint de l'actualité, mais de la vraie actualité, de ce qui nous arrive réellement. Et ça, c'est tout à fait célébrable liturgiquement. Un exemple. Nous recevons un clown qui s'appelle Denis Bernard. C'est un comédien tout à fait professionnel qui s'est spécialisé dans l'art du clown. Et après avoir mené sa vie de comédien au théâtre, il décide de mettre son savoir-faire au service des plus démunis, des enfants autistes, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des petits qui ont un cancer, des sans domicile fixe, des personnes en revalidation neurologique. Et ça marche. Ça marche de manière formidable. Il s'amène dans un hôpital où se trouvent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, où se trouvent des enfants autistes. Il vient avec son nez rouge, sa gabardine, son accordéon, sa poésie. Il s'approche tout en douceur et il essaye de se tenir au plus près du quotidien de la personne. « Je me tiens, dit-il, dans l'instant de sa souffrance. » Mon rôle, c'est d'endosser un personnage et ses tourments, sa tristesse, son ennui, sa colère, son désespoir. Si la personne à qui je rends visite prétend qu'un cheval est entré dans sa salle de bain, mais je vais regarder avec elle, j'attends toujours que la personne fasse le premier signe. Il peut s'agir simplement d'un mouvement de balancement auquel je vais répondre dans le même mouvement de balancement. C'est une affaire tactile, dit-il. C'est fou à quel point les personnes, même les plus perdues, gardent la mémoire du toucher. Elles ne sont plus capables de relier deux bouts de phrase, mais la peau ne connaît pas d'amnésie. Alors il joue, peau contre peau, doigt contre doigt, bout de nez contre bout de nez, et il voit des yeux se rallumer, il voit des mains se décrisper. Et nous avons dit à ce cher clown, Denis, qui est non-croyant, « Veux-tu bien relire l'entièreté du texte de la Passion en le découpant en 5 parties et en rendant chaque partie actuelle à travers une des personnes que tu as croisées dans ton travail de clown ?» Mais vous ne lisez jamais plus la Passion de la même manière quand elle vous est racontée à travers le vécu d'un clown pour défavoriser. Autre exemple, je sais qu'il me reste quelques minutes. Autre exemple, 10 minutes, ça va, parfait.
5 minutes.
Bon, je préfère 10. Autre exemple, mais je vais le dire d'une phrase, hein. J'ai célébré le Vendredi Saint avec Karima Berger. Vous voyez cette magnifique Karima, romancière musulmane. Et lorsqu'à un moment donné, nous étions en plein dans les attentats islamistes les plus atroces, hein, et elle avait le courage de célébrer un Vendredi Saint catholique comme musulmane pratiquante en dénonçant dans le commentaire de la Passion catholique, en dénonçant les attentats islamistes. Elle prenait des risques immenses, mais pour que ce soit un vrai rituel, à un moment donné, elle a déposé le Coran au pied de la croix. Croyez-moi, ceux qui ont vécu cette célébration m'en parlent encore aujourd'hui, plusieurs années après, ils n'ont jamais oublié le Coran au pied de la croix. Il y a 2 ans, au moment de la sortie de son livre « Soif », j'ai demandé à Amélie Nothomb de célébrer avec moi le Vendredi Saint. Il y a longtemps que nous voulions célébrer ensemble. Je savais parfaitement bien que l'Évangile comptait énormément pour elle. Je savais l'insupportable anorexie qu'elle avait traversée toute jeune après un viol. Et donc, Amélie et l'Évangile... C'est une histoire fantastique. On peut aimer ou ne pas aimer la romancière, c'est une autre question. Moi, je parle de cette femme qui a rencontré l'Évangile et qui ose en parler, et qui ose en parler publiquement, et qui ose s'attaquer à la question de la Passion. Parce que soif, ça remet fameusement les pendules à l'heure et ça met par terre certains discours d'Église qui parlait de la souffrance, parfois de manière extrêmement discutable. Mais la façon dont nous avons pu associer les extraits du livre « Soif » d'Amélie Nothomb qui dialoguait avec le découpage du texte de la Passion, mais je vous assure que ça n'était pas du tout artificiel. Hein. Ça parlait formidablement. Et enfin, dernier exemple, c'est lié... aux attentats du métro de Bruxelles, je me suis trouvé devant 2 mamans qui ont vécu les attentats djihadistes du métro de Bruxelles aux 2 extrêmes. L'une a eu sa fille gravement blessée dans le métro, elle est belge et athée, et l'autre a eu son fils qui est parti faire le djihad en Syrie, elle est musulmane pratiquante. Son fils est mort après 8 ans d'une vie épouvantable en Syrie. À 8 reprises, on a annoncé à la maman la mort de son fils, et seule la 8e fois était la vraie. Je ne vous raconte pas comment ces 2 femmes se sont rencontrées, comment elles ont décidé d'unir leurs 2 souffrances en disant il y a là 2 souffrances de mère qui ne sont pas séparables. Et elles sont venues me voir, ce n'est pas moi qui ai fait la démarche, elles sont venues me voir pour m'interroger sur le pardon et sur le sens du pardon. Et la relation s'est engagée de manière telle que je leur ai dit, est-ce que vous accepteriez de célébrer tout ce que nous avons évoqué en privé, de le célébrer publiquement dans le cadre d'une liturgie du Vendredi Saint. Elles ont dit oui, et je pense que ceux qui étaient là n'oublieront jamais ces deux femmes, ce moment lié au pardon, où nous allons lire une lettre d'Abdellah, le fils qui est mort au djihad, qu'il a écrite à sa maman avant de mourir, qu'elle n'avait jamais lue en public. Et nous avons demandé à l'Assemblée de méditer ce texte pendant la célébration du Vendredi Saint. Je voudrais aller en 30 secondes au-devant d'une objection que vous pourriez me faire. Vous avez bien de la chance de côtoyer tous ces gens-là, tous ces témoins. Vous avez bien de la chance d'avoir un tel carnet d'adresses. Mais c'est de la vaste blague. Ces gens-là, ils existent dans chacune de nos villes, dans chacun de vos villages. Ils sont à côté de vous tout le temps et du matin au soir. Mais quand je vais, moi, vers ces personnes, ils me disent, c'est la première fois qu'on nous invite dans une démarche comme celle-là. C'est formidable, mais jamais personne n'a songé à nous inviter. Donc, c'est dans la tête, c'est une conversion qui doit se faire quelque part pour que l'on soit convaincu que célébrer de cette manière-là, c'est possible. Les ingrédients, les témoins, les personnes, les artistes, ils sont là et ils ne demandent qu'à être engagés. Encore faut-il y aller et les engager et croire que ça vaut vraiment la peine. Je voudrais terminer en vous racontant une dernière histoire qui synthétise un peu ce que j'ai tenté de vous dire jusqu'à présent. J'ai laissé tomber quelques pages pour n'être pas trop long, mais je sais que nous aurons une heure de débat. J'ai ouvert notre rencontre en vous parlant de Noé. Je vais la clôturer en évoquant Salomé. Et vous allez voir que d'une certaine manière, l'histoire de Salomé rassemble ce que j'ai essayé de vous dire en faisant l'éloge de la célébration. Je n'ai jamais rencontré Salomé. Un jour, sa maman me téléphone. Je ne la connais pas. Et elle me parle de sa fille plongée dans le coma depuis plus d'un an après un terrible accident de voiture à Leuven, une ville flamande où se trouve l'université d'où venait notre collègue que vous avez entendu hier. Hein ? Mon enfant n'est plus qu'une plante, me dit cette maman au téléphone. Nous l'accompagnons jour après jour de toute notre affection, mais ce n'est pas une vie, ça n'est plus une vie. Ce n'est pas ce que ma fille aurait voulu. Donc c'est une jeune fille de 20 ans. Hein ? Mon mari et mon fils et moi-même, nous pensons que nous devons maintenant la laisser aller en paix. Est-ce que nous pouvons en parler ? Moi, quand j'entends ce coup de fil, je donne le rendez-vous, bien sûr, mais je pense que la maman et puis finalement le couple veulent venir me voir pour la question éthique que suppose l'arrêt des appareils. Hein ? Pas du tout. Pas du tout. La décision était prise. La vie de Salomé serait interrompue dans 3 semaines avec l'accord de l'équipe médicale. Donc, il venait me voir pour parler de la célébration. Il m'avait entendu un jour à la radio. C'est absolument comme ça. Il ne me connaissait pas. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut parler de la célébration ? Et est-ce que vous acceptez de la présider ? Vous savez, quand j'ai dit oui, ils se sont amenés avec une vingtaine de jeunes qui avaient l'âge de leur fille, donc des jeunes de 20 ans, des camarades de cours, des amis d'enfance, des proches des loisirs, le petit copain. Ils m'ont apporté des chansons, des musiques, des textes, des témoignages, des propositions rituelles. Et à un moment donné, ils me demandent « Est-ce qu'on pourrait mettre de la paille là, hein, au milieu de votre église ?» De la paille ? Mais oui, Salomé aimait tellement sa jument. Elle la montait avec une telle grâce, nous aurions aimé que la jument soit présente aux funérailles, mais c'est un petit peu difficile. Alors, symboliquement, en souvenir de sa passion pour l'équitation, nous voudrions déposer le cercueil sur la paille. J'étais bouleversé, hein ? Noël derrière nous, Noël devant nous, l'enfant dans la mangeoire, la jeune fille sur la paille, un cheval à la place de l'âne et du bœuf, mais le même souffle chaud, la même tendresse, la même fragilité, Salomé aux hommes de bonne volonté. Dans l'église, outre la paille, il y avait des fleurs, des dessins, des photos, un écran, un piano. Ravel, Baudelaire, Michael Jackson, U2, l'Évangile, Mozart et Leonard Cohen vont se succéder au fil de témoignages dans une tonalité totalement écuménique. Les jeunes avaient fait venir une dame qui a chanté en arabe et qui était celle qui nettoyait la maison. On a eu une dame qui a chanté le Kaddish en hébreu. Moi, j'étais chargé de lire l'Évangile. Quelqu'un représentait la maison de la laïcité. Bref, une célébration exceptionnelle, entièrement préparée par ces jeunes. Nous venions de vivre un moment avec Salomé dans l'église, sur la paille. Où allait-elle reposer après la célébration ? Les parents ne m'ont pas pris par surprise. Ils m'avaient demandé mon accord avant. Ils me disent, la maison où nous avons vécu ce drame pendant un an, nous allons la vendre. C'est impossible d'encore habiter là. Un cimetière, pas question. Elle serait si bien dans votre prieuré. J'ai quand même dû réunir mon équipe, parce que c'était quand même une question délicate. Nous avons convenu qu'elle rejoindrait le jardin, qu'elle ensemencerait le magnolia que nous avions déjà planté. Et au retour du centre funéraire, après la crémation, nous n'étions plus que les tout proches. On a ouvert l'urne et pendant 20 minutes, en silence, il y avait là les quatre grands-parents, les parents, le frère et les amis tout proches. Et pendant 20 minutes, en silence, on prenait une poignée de cendres qu'on mettait dans le trou, et puis une poignée de terre, une poignée de cendres, une poignée de terre. Je n'oublierai jamais un des grands-pères qui voulait tout le temps reprendre des cendres. Et qui criait « Ma petite chérie, ma petite Salomé, ma petite fille, ma petite fille » et il reprenait une poignée de cendres. J'ai la chance d'habiter sur place. Je regarde grandir le magnolia. Je regarde grandir Salomé. Et je la remercie car nous l'avons mis au même endroit. C'est elle aujourd'hui qui veille sur le petit Noé. Je vous remercie.